Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Le dernier épisode s'appelait End. Considérez que c'est une nouvelle saison après tout. Il n'y a pas de raison, il y a Netflix qui nous sort des nouvelles saisons des années après la première ou d'autres services de streaming. Des séries comme ça bien longtemps après. Je vais tester le coup, je vais relancer moi une nouvelle saison de La Voix de Guillaume. À des fins, alors je le cache pas, un petit peu d'autopromo, mais aussi pour donner des éléments d'actu de mon côté. Et puis parfois il y a des trucs que j'ai sur le cœur, que j'ai envie de confier. Il s'avère que pendant très longtemps j'ai participé plus en tant qu'auditeur qu'en tant que preneur de parole à un groupe d'échange sur Cappuccino, l'application où on peut se partager des messages audio. Tous les jours si on veut, et puis le lendemain on a un mix de tous les messages audio de la veille de tous les participants. C'est assez cool, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil, notamment dans le cas où vous êtes dans une famille et que vous ne vivez pas à côté, que vous êtes assez proche, ou un groupe d'amis très proche, ça peut être très chouette. Moi j'avoue que j'ai un petit peu malheureusement dépriorisé mes échanges sur ce groupe et mon écoute, parce que j'ai dû mettre ça de côté au niveau du temps de dispo là, ces dernières semaines. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de jours de retard d'écoute et que c'était systématique. Quand je lançais Cappuccino, j'écoutais tous les jours que j'avais manqué, et c'était en fait assez compliqué. D'autant que l'application n'est pas hyper bien faite pour suivre, je trouve, les anciens épisodes. En fait, on aimerait pouvoir appuyer sur un bouton et qu'en un clic, ça dise « relance-moi tout ce que j'ai manqué ». Et que la fois suivante, ça reprenne là où ça s'est arrêté. C'est pas le cas. C'est très, 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 très loin d'être la même expérience et la même simplicité qu'un podcast, on va dire. Donc, très cool, je vous recommande. Mais j'avoue que de mon côté, je suis contraint de l'abandonner. Et puis, je suis le premier à dire aux personnes qui participent à ce genre de groupe, au lieu de diffuser des messages sur Cappuccino, ça vaut le coup de continuer à prendre la parole dans un blog audio, un podcast personnel ou un streetcast, comme on l'appelle régulièrement. Et après tout, peut-être qu'il faut que je montre un petit peu la direction, ou en tout cas que je donne l'exemple. C'est un peu comme auprès des enfants, quoi, quand on dit faut pas crier, et qu'on se remémore 5 minutes avant avoir hurlé, c'est évidemment pas très efficace. Et je pense que ça fait des injonctions contradictoires, et au lieu de le prétendre, il vaut mieux le montrer. Écoutez, je vais essayer de montrer de mon côté qu'on peut prendre le parti de reprendre un blog audio. Petite actualité aussi à mon niveau, pour dire que je me suis lancé un petit peu sur Twitch. Alors, se lancer, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire, finalement. Ça veut certainement pas dire que j'envisage d'être un Twitcher professionnel et que j'envisage d'en faire une activité principale, très très loin de là. Mais il s'avère qu'il y a certains éléments de travaux de la maison chez moi qui sont bouclés pour l'instant. En tout cas, j'ai décidé de mettre en stand-by un certain nombre d'éléments qui nécessitent d'être finalisés. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a une cage d'escalier qui nécessite d'être bien réenduite, et j'avoue que la poussière que ça va générer me semble pas très très propice à être fait en plein hiver. On a un petit peu de peinture sur des boiseries, on a des extérieurs à faire, et ça on les fera clairement pas au moins avant le printemps. On a une petite buanderie WC qui serait complètement à refaire, mais là ça nécessite une petite intervention en plomberie avant. Bref, à ce stade-là, je me suis dit que j'ai bouclé mes activités travaux de l'année 2021. Je m'étais largement exprimé sur mes travaux dans le passé, donc je vais pas revenir dessus. Et j'ai un petit peu plus de temps, ou en tout cas je consacre un petit peu plus de temps à certaines activités qui m'étaient chères et que j'avais toujours voulu faire. Je suis notamment en train d'avancer très sérieusement dans Zelda Breath of the Wild, que je n'avais pas eu à l'arrivée de la Switch. En tout cas, moi je l'avais mis un petit peu après la sortie de la Switch, et j'avais acheté Zelda même bien après, parce que je l'avais vu en promo à l'époque sur le store, sur le Nintendo eShop. Et de fait, je l'avais lancé il y a de ça, je dirais, une grosse année, et j'avais pas accroché du tout. J'avais eu énormément de mal à m'immerger dans cet univers. Je trouve que le début de Zelda Breath of the Wild sur la Switch est hyper pénible. Je comprenais pas. Je me disais, mais je comprends pas pourquoi les gens aiment autant Zelda, versus l'expérience au début de jeu qui est pénible. On se sent abandonné, on se sent un peu vide, on doit aller super loin trouver des repères, c'est pas très fun. On est très très vite bloqué par des trucs qui sont liés à la cuisine, à des habits, et puis bah, on n'est pas trop guidé, je trouve, au début. Alors qu'en fait, il y a un moment clé du jeu où tout se débloque, mais vraiment de manière instantanée. Quand on a, paradoxalement, c'est pas directement lié à ça, mais je l'attribue au moment où on a une espèce de paravoile, comme ils disent. Donc en gros, c'est une espèce de parachute qui permet de planer très très loin. Donc si vous avez un point un peu en hauteur, eh ben, vous pouvez aller naviguer super loin et voyager. Et là, le monde ouvert s'ouvre à vous et c'est absolument génial. Franchement, j'ai accroché à mort. Et j'ai mon fils qui le fait de son côté aussi avec sa sauvegarde. Donc on avance en parallèle. On ne fait pas tout à fait le même avancement parce que c'est aussi ça qui est génial avec Zelda, c'est qu'on peut vraiment explorer le monde dans le sens qu'on veut. On n'est pas contraint à aller dans une zone puis une autre. Moi, j'avais ce souvenir-là avec World of Warcraft où certes, on avait des choix de zone en fonction de notre niveau, mais globalement, on avait quand même un terrain qui était assez écrit dans les grandes lignes, ou plusieurs terrains, mais qui étaient un peu écrits à l'avance. Et là, je reconnais que les zones, on peut quand même les explorer un petit peu comme on veut. La difficulté des monstres s'adapte à notre situation. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui a été installé avec le jeu The Witcher et qui a été un petit peu repris dans plein de jeux, dont Zelda. Et j'avoue que c'est vraiment cool. Il y a certains petits puzzles sur lesquels je bloque un peu, mais il n'y a rien d'infaisable. Et j'ai bien avancé. Là, j'ai battu quatre créatures divines, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Donc, je vais m'attaquer à la suite très prochainement. Je commence à pouvoir me dimensionner un petit peu pour lire aussi. Et en gros, voilà, je peux me consacrer un petit peu de temps maintenant à faire d'autres choses, des jeux de société avec les enfants, à faire d'autres choses que d'être en permanence dans le rush. Et ça, c'est vraiment très, 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 très agréable. Donc, bah, c'est un petit peu pour ça aussi que je reprends la parole dans ce streetcast, parce que c'est des choses que je vais pouvoir partager un petit peu sur le plan perso. Et puis mes trajets en voiture bah, ne sont pas très longs à la base parce que j'ai pas beaucoup de distance pour aller jusqu'à mon boulot, mais il y a toujours systématiquement une bonne zone de gros bouchons dans laquelle je suis là présentement. Et bah, c'est l'occasion de me poser un petit peu, de poser mes idées, de vous les partager, ce qui permet en fait aussi, hein, je pense, de structurer ma pensée. Un petit mot aussi sur la situation sanitaire qui, moi, me fait terriblement flipper. Donc j'ai eu ma troisième dose hier. On est aujourd'hui le 29 novembre. J'ai eu 29 novembre 2021. Je dis ça pour la postérité. J'ai eu ma troisième dose hier. En fait, l'annonce de la disponibilité de la troisième dose pour ma tranche d'âge a été faite il y a quelques jours. Les sites type Doctolib, etc., pour prendre rendez-vous ont été complètement pris d'assaut. Et j'ai l'immense chance d'avoir une amie près de chez nous qui travaille au centre de vaccination. Limite, on n'a même pas eu à s'inscrire, on a juste reçu le SMS de confirmation d'inscription. Donc, expérience pour le coup clé en main. Je pense que si tout le monde pouvait bénéficier de ça, je suis à peu près persuadé que les gens se feraient plus naturellement vacciner. J'imaginais, tiens, on pourrait recevoir un SMS qui dirait vous pouvez vous faire vacciner à telle date si vous acceptez, répondez oui. SMS non facturé et bim, ça réserverait le créneau. Franchement, je pense que l'expérience serait au top. Bien évidemment, je ne pense pas que l'expérience utilisateur de vaccination soit le principal frein. Et d'ailleurs, de fait, je voyais que la principale difficulté de la vaccination, maintenant, à l'échelle ben déjà de la France, c'était pas vraiment le fait que la population refusait de se faire vacciner, parce que quand on regarde le pourcentage de la population des personnes éligibles, finalement, c'est quand même largement couvert. Alors, on n'est pas à 99%, hein, mais c'est quand même pas mal. Il manquerait, allez, un 10% de la population qui nécessiterait d'être vaccinée, qui peut l'être et qui ne l'est pas. Donc, finalement, je me dis 10%, c'est pas énorme. On n'arrêtait pas de dire que la France était très anti-vax, et je pense que structurellement, elle l'est. J'ai quand même le sentiment que là, les choix qui ont été faits ont été plutôt les bons, parce que la population s'est quand même globalement fait vacciner. Là où on a une marge de progression énorme, je pense, maintenant, c'est pour les enfants. Évidemment, encore faut-il que les vaccins soient tamponnés par l'AMS comme étant appropriés pour les enfants. Et en fait, il y a un problème qui se rajoute, c'est qu'on a le variant Omicron là, qui arrive, qui a l'air d'être mais une horreur en termes d'incidence pour les enfants. Si on regarde les courbes de Covid Tracker, qui est une source indépendante qu'on ne peut pas trop contester, je pense, on voit que le top de la population qui est la plus affectée par la hausse des cas, c'est les moins de 10 ans. Et moi, franchement, ça ne me rassure pas du tout. Quand je vois la gueule du vaccin, la virulence, l'inconnu que ça peut représenter, c'est assez dingue. J'espère qu'ils vont pouvoir avancer assez vite pour que les enfants puissent être vaccinés, qu'on va avoir des solutions là-dessus. Et de toute façon, même s'ils pouvaient être vaccinés, j'imagine que ce serait sur la base vaccinale de ce qui existe déjà. Or, a priori, les mutations font que ça peut être plus résistant au vaccin. Et ça craint quand même du boudin. Je trouve que c'est vraiment un échec de la démocratisation de la vaccination dans le monde, parce qu'en fait, si on regarde dans des pays comme la France, oui, ok, on a quelques antivax, on a quelques personnes sceptiques qui sont du coup clairement pas la majorité, ou en tout cas qui ne s'expriment pas dans leur décision finale de se faire vacciner ou pas, comme je le disais. Mais à l'échelle mondiale, on a quand même surtout un bon gros paquet de pays qui est certainement pas dans les situations dans lesquelles on est. Et c'est marrant de voir que la mondialisation, elle a ses conséquences aussi sur le plan sanitaire et à l'échelle mondiale. Grosso modo, si on n'accompagne pas les pays qui nécessitent d'être vaccinés pour freiner la propagation du virus et donc l'émergence de variants, on se les prendra dans la gueule. Et je pense que quelque part, c'est un très bel enseignement que ça ne sert pas à grand-chose de penser qu'à soi. On pourrait penser fermeture de frontières, on pourrait penser, certains pensent immigration, on pourrait penser à beaucoup de choses qui soient du protectionnisme ou du conservatisme. Mais je pense que là, en l'occurrence, c'est un très bel exemple que si on veut s'en sortir, il va falloir qu'on soit beaucoup plus en train de jouer collectif à l'échelle mondiale que à l'échelle locale. Alors évidemment, ça pose plein de questions, hein. C'est pas facile ce que je dis, mais en matière de stratégie, en tout cas, je pense qu'il y a un coup de curseur à donner. Et voilà, c'est un peu la situation sanitaire qui me préoccupe quelque part. Alors bon, ça va, hein, c'est pas non plus un truc qui m'empêche de respirer, mais je suis assez inquiet pour l'avenir. Moi qui naïvement pensais au départ qu'on aurait peut-être allé deux vagues et qu'après on arriverait à se débarrasser de ce truc, voilà, je commence à comprendre effectivement ce que beaucoup de monde disait, à savoir qu'on allait se le taper longtemps. Je me rappelle des hypothèses que diffusait Numérama au tout début, hein, de l'arrivée du Covid, et qui essayait d'anticiper quel schéma de cas il pourrait y avoir et de vagues il pourrait y avoir dans le temps. Il y avait plusieurs hypothèses, et puis la dernière hypothèse, c'était plusieurs vagues qui reviendraient à différentes époques, espacées plusieurs mois. Je trouvais ça un peu curieux, je me disais, écoute, quand même, si on trouve la solution, je vois pas pourquoi ça devrait se passer comme ça. Mais en fait, oui, on n'a pas trouvé la solution. Probablement qu'on avait les clés en main, on les a peut-être encore, mais dans les faits, la solution n'a pas été vraiment mise en œuvre. Et du coup, on se retrouve avec des multiples vagues, et c'est évidemment pas prêt de s'arrêter. Donc pas forcément réjouissant, et en plus, quand je parle de ça avec des proches, c'est assez dingue. J'ai une amie qui a eu son fils qui a été testé positif avec un test salivaire, donc forcément fermeture de classe, qui a fait des tests PCR derrière pour confirmer ce cas. Et elle a fait, je crois, derrière pas moins de 3 tests PCR qui se sont avérés négatifs. Et pour autant, évidemment, la classe était fermée, alors elle a été hyper impactée, parce que, évidemment, garde d'enfant, fermeture de classe, le frère qui, en plus, lui, était aussi contraint à rester à domicile parce que considéré comme cas contact sur le plan administratif. Et du coup, voilà, quand on parle à ces personnes-là des courbes dont je parlais juste avant, à savoir le fait que les enfants sont en première ligne des cas de cette fin d'année 2021, malheureusement, c'est des personnes qui sont assez sceptiques et qui vont être les premières à dire oh là là, moi les courbes, j'y crois pas. Quand on voit ce que ça donne avec les tests salivaires, c'est évident qu'ils n'ont pas les bons chiffres, c'est évident que. C'est évident que ce n'est pas les bonnes données, je suis super sceptique. Alors dans un sens, c'est bien que les gens soient sceptiques parce que au moins ils ne se laissent pas embrigader par des fake news et des campagnes de désinformation, ça c'est très bien. Mais en même temps, il y a l'effet de bord aussi des gens qui sont relativement sceptiques de la situation sanitaire. Alors vous me direz en quoi c'est grave? Finalement pas en grand-chose jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être ces gens-là ne sont pas non plus les personnes qui prennent les bonnes mesures parce qu'ils ne croient pas en la dangerosité de la situation. Et oui, encore 2 ans après, on a ce scepticisme. Je reconnais moi-même, hein, que je n'avais pas identifié bien la situation au départ. Je ne suis clairement pas un professionnel de la santé et puis J'ai affiché mon scepticisme à ce sujet, mais 2 ans après, on aurait dû, je pense, en tirer un certain nombre d'enseignements. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, une petite note un petit peu moins réjouissante pour la fin de cet épisode, mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver dans ce streetcast, dont je ne garantis évidemment aucune régularité spécifique. Je vais essayer d'installer un rendez-vous, mais je suis ravi de vous y retrouver. Et puis, bah, surtout, je serai ravi de vous retrouver sur Twitch presque tous les dimanches soirs dans les semaines à venir à 21h, ou 20h d'ailleurs dimanche à venir pour l'enregistrement de ReLife. Mais je serais ravi de vous y retrouver un petit peu n'importe quand. Je peux lancer aussi des streams un petit peu à tout moment en fonction de mes dispos et de mes envies. Donc c'est twitch.tv/GuillaumeVendée. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous.